Vous écoutez RTL.
18h38, suite de RTL Soir, avec votre deuxième invité, Marc-Olivier Fogiel.
Deuxième invité d'RTL Soir, ne pas se fier aux apparences. Jacques-Antoine Grangeon n'a pas de costume, pas de cravate, mais il est l'entrepreneur de l'année selon Ernst & Young. Bonsoir, Jacques-Antoine Grangeon.
Bonsoir, Marc-Olivier, merci de me recevoir.
Non, merci d'être là. Le prix de l'entrepreneur de l'année pour avoir fait donc venteprivée.com, la référence de la vente sur Internet. On va raconter votre parcours, incroyable saga d'abord. Ce n'est pas le premier prix que vous recevez, mais ça compte dans la vie d'un entrepreneur, un prix comme ça ?
Ça fait surtout très plaisir, parce qu'il y a le temps du prix, qui est un temps qui est court, mais il y a le temps de l'entreprise, qui est un temps qui est long. En fait, vente privée existe parce qu'il y a eu l'apparition du digital en 2004 et qu'avec mes associés, nous avons muté notre entreprise que l'on avait créée en fait à la base en 1985. Donc, c'est une entreprise qui a 31 ans. C'est ça ce qui est la réalité. Donc, le temps de l'entreprise, c'est un temps long et passionnant.
Des bas et des hauts, puisqu'il y a eu des moments, et vous allez le raconter, de galère. Ça n'a pas été le succès d'aujourd'hui tout de suite, d'ailleurs.
Non, c'est pas le succès d'aujourd'hui tout de suite. Le succès, il est venu avec le temps, avec la mise en place de l'exécution, avec la chance d'être là au bon moment quand l'ADSL arrive, c'est-à-dire le Quick Internet, et que l'usage se met en place. Ça ne sert à rien d'être trop en avance, il ne faut pas être en retard non plus. Mais l'entreprise, c'est quoi le prix de l'entrepreneur ? Finalement, c'est quoi un entrepreneur ? C'est juste quelqu'un qui veut être libre, indépendant et vivre une aventure. Ben, comme toutes les aventures, parfois on avance, parfois on recule, parfois on se trompe. Parfois on vit des échecs et ça me fait très plaisir d'avoir ce prix là maintenant parce qu'il y a 2 ans on était en plein échec avec vente privée, alors ça on le savait pas parce que l'entreprise faisait 1,5 milliard de chiffre d'affaires mais on était parti sur une aventure américaine et on s'était planté en Amérique, je l'ai dit, je l'ai assumé en public parce qu'on avait fanfaronné quand on était parti, quand on s'est planté on l'a dit. Et ben en 2 ans on a remis l'entreprise en marche, on a remis les talents en marche, on a remis l'énergie en marche, on s'est redéployé sur l'Europe et cette année on va peut-être faire normalement si on livre bien nos colis, 3 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on a remis l'entreprise en mouvement. C'est pour ça que ça me fait très plaisir.
3 milliards de chiffre d'affaires, 52 millions de membres dans 12 pays d'Europe, 4000 collaborateurs, donc 3 milliards de chiffre d'affaires. Juste avant de raconter le parcours, le patron que vous êtes, patron atypique, vos cheveux longs, pas de veste, généralement vos t-shirts collants en V, vos baskets ce soir. Est-ce que ça a été compliqué de se faire une place dans ce monde de l'établissement? Vous, vous êtes anti-establishment d'une certaine manière.
Je suis ni anti,
contre, mais vous êtes à côté, quoi. Vous n'êtes pas vraiment le patron qu'on imagine du 440, quoi.
Bah, d'abord, je ne suis pas au 440.
Je sais bien, mais vous n'êtes pas ces patrons dont on a l'image a priori.
Oui, mais l'image du patron, c'est quelque chose de souvent faux, parce que finalement, le patron, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut une entreprise qui se développe, il veut une entreprise en croissance, il veut une entreprise profitable, mais il veut une entreprise dans laquelle les talents restent longtemps, et pour que les talents restent, il faut les motiver, il faut avoir des beaux projets, et il faut motiver ses collaborateurs pour faire venir les meilleurs, pour réussir. Et tous les patrons sont quand même plutôt comme ça, et en tout cas, ceux qui dirigent leur propre boîte sont en tout cas essentiellement comme ça.
Et comment vous expliquez la mauvaise image du patron ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde très clivé, dans ce monde de polémique permanente, du buzz, l'image du patron représenté par le MEDEF, c'est un patron vorace plutôt.
Parce qu'on oublie de dire profondément qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Une entreprise, c'est un endroit par exemple où s'exerce la diversité. Dans les entreprises, il y a toutes les religions, tous les métiers différents, des gens de toutes les couleurs de peau, et tout ça, si vous les faites travailler pour des projets communs, il n'y a aucun problème. Donc la diversité s'exerce en entreprise. Donc on oublie à quel point l'entreprise est facteur de création de richesse, de création d'aventure. On ne le dit pas assez. Et on vous parlait de moi aujourd'hui, mais il faut parler aussi de tous les jeunes entrepreneurs qui montent des affaires, tous ceux qui les font grossir, qui ont des difficultés. Moi, je rencontre un nombre d'entrepreneurs incroyables. À la fois des entrepreneurs sociaux, mais des entrepreneurs aussi qui visent une profitabilité, qui vont employer les gens de tous les côtés, dans tous les métiers différents.
Votre aventure à vous, racontez-la nous. Votre ami Xavier Niel, autre patron atypique, il dit « Le génie de Jacques-Antoine, c'est d'avoir fait d'un vieux business quelque chose de moderne. » Comment c'est né, votre truc de déstockeur ?
Parce que j'avais des amis qui faisaient ça près de République et qui avaient l'air de bien gagner leur vie. Et je ne savais pas quoi faire. Je sortais d'une école de commerce et puis je me suis associé avec un garçon qui s'appelle Julien Sorbat, qui 31 ans après, on est toujours associés. Et puis après, on a développé avec le temps, avec la patience, avec l'énergie, avec la chance.
Donc au début, c'était sur les marchés. Vous étiez une sorte d'intermédiaire, quoi, d'une certaine manière.
Au début, on vendait aux gens qui allaient sur les marchés. On vendait à Tati, on vendait à toutes les solderies de France.
Mmh. Vous étiez l'intermédiaire entre les marques et les soldeurs.
Sur les invendus des marques, on était l'intermédiaire entre les marques et les soldeurs détaillants, exactement.
Sur les invendus, puis le principe est simple, un vendre sur une courte durée, une sélection d'articles de grandes marques à prix réduit. C'est ça le principe au départ. Comment vous êtes dit à un moment donné, ce vieux business, d'un coup, je vais en faire un truc de moderne, comme dit votre pote Xavier Niel.
Parce que la chose qu'on savait vraiment faire, c'était acheter des produits pas chers auprès des marques pour des raisons industrielles, parce qu'elles avaient besoin de les déstocker rapidement. Et quand le digital est arrivé, mais ça a mis du temps, hein, c'est pas une idée qui est arrivée comme ça brusquement, c'est un long cheminement des années 1998 à 2001, c'est, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce digital? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, c'est quoi? Comment on peut adapter notre métier? Et en prenant ce temps de la réflexion, un jour, on s'est dit, le digital, ça nous permet d'aller faire des photos des produits qu'on a bien achetés et de les proposer à une multitude de gens. Et si ces produits sont intéressants, les gens vont venir. Ça a démarré comme ça avant de priver. C'est tout simple. On a pris les photos des achats qu'on faisait et on s'est rendu compte qu'au lieu de les vendre à des boutiques, on les vendait directement au consommateur final.
Mais est-ce que la problématique et peut-être la critique qu'on peut vous faire, c'est de se dire que finalement, à tout vendre moins cher, ça tue toute une partie d'un commerce qui a besoin de vivre aussi?
Non, nous, on vend pas moins cher. Nous, on vend les invendus. Donc, les invendus, pour les vendre, il faut les vendre moins cher. C'est juste une petite frange du commerce. Maintenant, c'est vrai que l'Internet, lié au fait qu'on puisse comparer les prix avec une forme de déflation permanente, on croit que aujourd'hui tout est moins cher et on est un peu perdu sur les prix. Mais nous, on a une raison industrielle pour laquelle on est moins cher. C'est parce que c'est du déstockage. Mmh.
À côté de ça, donc ça, c'est votre activité principale. Vous avez une école avec Xavier Niel. Vous travaillez avec lui?
Alors, on a une école avec Marc Simoncini et Xavier Niel qui s'appelle l'EMI, qui est une forme d'école de commerce digital. Et surtout, Xavier a monté une école dans le digital qui s'appelle 42, parce qu'il ne faut jamais oublier que finalement, toute cette croissance de vente privée qui faisait quasiment zéro de chiffre d'affaires en 2004 et qui, cette année, j'espère, fera 3 milliards, est liée au digital. Et c'est quoi le digital? Ce sont à un moment donné des codeurs, ce sont des développeurs. C'est ça la compréhension de ce qu'est le monde digital. C'est un dialogue avec des gens qui vont écrire vos projets pour faire que l'infiniment petit, le clic, une idée, se transforme en l'infiniment grand, c'est-à-dire le trafic et le volume de personnes et de produits que vous pouvez vendre sur votre site.
Puis à côté de ça, vous avez également des théâtres, notamment le Théâtre de Paris, de la Michaudière, parce que la culture, c'est indissociable de ce que vous êtes. Là, vous avez pris un peu de temps pour venir nous voir, mais autrement, vous êtes à la FIAC, à côté, l'art contemporain qui est votre passion. C'est ça aussi, vous êtes animé d'autre chose.
Je suis surtout animé parce que qu'il se passe des choses passionnantes à Paris, et il se passe des choses passionnantes à Paris au moment de la Fashion Week, aujourd'hui au moment de la FIAC, avec des expositions partout dans Paris. À chaque fois qu'il y a du mouvement, à chaque fois qu'il y a une jeunesse qui est motivée, qui est éclairée, le pays continue d'avancer avec le sourire. Ce qui n'est pas facile, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses.
Et c'est comme ça qu'on avait envie de les entendre ce soir. Merci beaucoup Jacques-Antoine Grandjean d'être passé nous voir, et bravo.
Merci beaucoup.